C'est l'heure du journal d'Haïti et des Amériques. Il vous est présenté par Adrien Delgrange. Bonjour Adrien.
Bonjour Edmond Sadaka, bonjour à tous. De Fort-de-France à Rio, en passant par Washington et La Paz, soyez les bienvenus.
RFI.
Au sommaire de ce 12 octobre, Donald Trump à la traîne dans les sondages derrière Joe Biden en vue de l'élection présidentielle. Le candidat républicain sillonne de nouveau l'Amérique. 3 jours de déplacement, 3 meetings dans 3 États clés, la Floride, la Pennsylvanie et l'Iowa. Nous irons dans ce journal au Chili, à l'approche du référendum pour ou contre la rédaction d'une nouvelle constitution. À la fin du mois, les manifestations ont repris ces derniers jours. Au Brésil, la religion d'un prochain juge nommé à la Cour suprême crée la polémique. Jair Bolsonaro avait promis un évangéliste et ce sera probablement un catholique qui sera nommé. Et puis dans ce journal des Outre-mer, à la fin, nous irons aujourd'hui en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique. Sans oublier un détour par Paris où nous parlerons de culture aujourd'hui avec l'artiste brésilien Miguel Rio Branco qui expose ses œuvres. Ce sont des photos. Et pour commencer ce journal des Amériques, tout d'abord, le prix Nobel d'économie attribué ce matin à 2 Américains.
In memory of Alfred Nobel, jointly to Paul R. Milgram and Robert B. Wilson, for improvements to auction theory and invention of new auction formats.
Paul Milgram, Robert Wilson, récompensés pour leur travail sur des techniques de mise aux enchères, un travail qui permettrait de trouver la meilleure formule pour satisfaire à la fois le vendeur, l'acheteur et les contribuables. Aux États-Unis, l'autre grand titre du jour, ce sont les auditions au Sénat pour la nomination de la juge Amy Coney Barrett. Ça se passe à la Cour suprême, une audition qui débute à l'instant même à Washington.
Good morning, everybody. The hearing to confirm Judge Amy Barrett to the Supreme Court will now begin.
Une procédure décriée, on le sait, par les élus démocrates qui estiment qu'il faut attendre l'élection présidentielle avant de nommer un juge à la Cour suprême américaine. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Adrien, bonjour à tous.
Alors nous reviendrons évidemment dès demain sur les réactions de cette audition dans la presse. Mais ce matin, Arim, la presse nord-américaine titre sur cette avance du candidat démocrate Joe Biden dans les sondages.
Oui, alors que la campagne électorale entre dans sa dernière ligne droite, Joe Biden a légèrement creusé l'écart face à Donald Trump. D'après les sondages nationaux, il est à 12 points devant le président sortant. Les sondages dans les États clés montrent un duel plus serré, mais toujours en faveur de l'ancien vice-président de Barack Obama. Ce n'est pas un bouleversement, explique un expert dans le Washington Post, mais c'est une tendance très nette.
Alors une tendance liée entre autres au choix de certains électeurs qui déclarent avoir voté pour Joe Biden alors qu'en 2016 ils avaient donné leur voix à Donald Trump.
Oui, c'est le cas de Peck Bonnet, une retraitée de l'Arizona interviewée par le Washington Post. Cette électrice indépendante a voulu lui donner une chance il y a 4 ans en raison de son expérience dans les affaires, dit-elle, et parce qu'il ne faisait pas partie de l'establishment de Washington. Aujourd'hui, pas question de refaire les mêmes choix, je ne l'aime pas et je ne l'aime encore moins pour son comportement après qu'il ait été contaminé par le coronavirus, explique Peck Bonnet dans le Washington Post.
Et puis on met le cap sur la Californie avec vous, Arim, un État qui est, selon la presse canadienne, en marge de la politique américaine.
Oui, c'est un joli portrait de la Californie qui est à lire dans le journal Le Devoir. La Californie voudrait donner l'exemple d'une autre façon de gouverner aux États-Unis, écrit le quotidien québécois, car en matière de politique environnementale, par exemple, cet État se démarque effectivement, entre autres, par des règles plus sévères sur la qualité de l'air, ainsi que par un système de bourse du carbone qu'il partage, notamment avec le Québec.
Et puis au Chili, à présent, à l'approche du référendum pour ou contre la rédaction d'une nouvelle constitution, c'est à la fin du mois, les manifestations ont repris ces derniers jours. Et hier dimanche, eh bien, ce sont les cyclistes qui ont décidé de descendre dans la rue. Reportage, Justine Fontaine.
Le cortège s'étire sur plusieurs centaines de mètres. Des milliers de cyclistes, la plupart masqués, viennent de s'élancer depuis un parc du centre-ville. Victor Borgos, ouvrier dans le bâtiment, est venu de la banlieue sud de Santiago avec 2 amis.
Avec mes amis et toutes les personnes réunies ici, on manifeste pour demander une nouvelle constitution et aussi pour que les cyclistes soient davantage respectés et protégés.
Sur son vélo, son ami porte un drapeau chilien et un drapeau en faveur d'une assemblée constituante. Francisca, 31 ans, fait elle partie d'un collectif de cyclistes féministes et LGBT. Elle souligne les avantages de manifester à vélo et non à pied.
Cela nous permet d'être visibles dans énormément de quartiers. On est aussi moins réprimés. Et puis en se déplaçant à vélo, on limite le risque de contagion grâce à la circulation de l'air.
À cause de la pandémie de Covid-19, les grands rassemblements sont interdits, même en plein air. Mais manifester à vélo permet de contourner cette interdiction et d'éviter en général les canons à eau de la police et les gaz lacrymogènes. Au total, le cortège aura parcouru plus de 25 km à travers la capitale. Justine Fontaine, Santiago, RFI.
Et le oui à la rédaction d'une nouvelle constitution est donné pour l'instant largement gagnant dans les sondages au Chili, un scrutin prévu le 25 octobre prochain. Revue de presse, la suite avec vous, Arim Lipol, direction la Bolivie. À présent, où un autre candidat à l'élection présidentielle bolivienne s'est retiré de la course pour éviter une victoire du parti de l'ancien président Evo Morales.
Oui, il s'agit de l'ancien président Jorge Quiroga. Sa décision fait la une de La Razón. Je n'ai pas la possibilité d'accéder à la présidence, je ne pourrai pas diriger ce gouvernement et pour cette raison, je retire donc ma candidature, a déclaré Jorge Quiroga dans un message vidéo. Reste à savoir, Adrien, si cette décision puisse influer vraiment le scrutin, car le dernier sondage lui attribuait à peine 1,3% des intentions de vote.
Autre sujet à la une de la presse bolivienne, l'appel de l'Association nationale de la presse à respecter la liberté d'expression.
Un appel en direction de tous les candidats, mais notamment du candidat du MAS, le parti de l'ex-président Evo Morales. En fait, ce dernier, de son exil en Argentine, avait critiqué les médias en les qualifiant d'ennemis numéro un et on les a menacés en fait, de représailles si le MAS revenait au pouvoir, c'est-à-dire dans la Prensa.
Et puis enfin au Brésil, l'Amazonie qui continue de brûler, Arim, les incendies ont atteint un niveau record cette année.
Oui, exactement. Selon les données publiées par l'Institut national pour les recherches spatiales, il y a 15 700 foyers d'incendies actifs, un record absolu dans l'histoire du pays. Le géographe Carlos Durigan, qui s'exprime sur le site de Globo, explique que les incendies sont étroitement liés à la déforestation et en cette période de sécheresse, eh bien, les feux brûlent les terres déjà déboisées afin de préparer le sol à une utilisation agricole.
Merci Arim. Arim Lipold pour votre revue de presse des Amériques sur RFI.
Radio France Internationale, à Radio Mondiale.
Et nous restons au Brésil. Jair Bolsonaro qui nomme un nouveau ministre à la Cour suprême. Il remplacera le doyen du Tribunal suprême fédéral en la personne de Celso de Mello qui prend sa retraite demain, mardi. Alors après avoir attisé les tensions avec la Cour suprême ces derniers mois, eh bien le président avait prévenu qu'il nommerait une personne terriblement évangélique pour succéder au juge très respecté vu comme le point d'équilibre de l'institution brésilienne. Pourtant, depuis le début du mois, Jair Bolsonaro semble avoir mis de l'eau dans son vin puisqu'il nommera Cássio Nunes, un catholique plus modéré que les autres candidats potentiels et favori des partis du Grand Centre. C'est un sujet signé Sara Cozzolino.
Le 1er octobre, lorsque Jair Bolsonaro annonce son choix pour la Cour suprême dans son live Facebook hebdomadaire, c'est la surprise. Le candidat du président n'est pas évangélique, mais catholique. Il tient quand même à rassurer ses électeurs.
L'année prochaine, je devrais nommer un nouveau juge et mon premier critère serait qu'il soit évangélique, tellement évangélique. Ensuite, il faut qu'il soit proche de moi, c'est une question d'amitié, c'est important.
Du côté des évangéliques, le choix sonne comme une trahison. Le pasteur Silas Malafaia, fervent soutien du président, n'accepte pas qu'il puisse nommer à ce poste un juge qui, 9 ans plus tôt, avait été nommé par l'ancienne présidente Dilma Rousseff au tribunal de sa région.
Toute la gauche le soutient. La presse gauchiste n'en remet rien en question. Les électeurs de Bolsonaro s'attendaient à un camarade préparé sur le point de vue judiciaire, un camarade terriblement de droite.
Mais avec son profil plutôt technique, Cássio Nunes est avant tout le candidat des partis du grand centre droit au Sénat. Un choix plutôt rationnel selon Luigi Bonizzato, professeur de droit constitutionnel à l'Université fédérale de Rio de Janeiro.
Cette nomination peut être un moyen pour le président de dire « gardez votre calme, ce n'est pas ce que vous pensiez ». Pour moi, c'est une nomination qui témoigne davantage d'une certaine rationalité dans le choix plutôt que d'un éloignement de l'aile évangélique.
Pour rassurer ses électeurs, des plus conservateurs, le président a déclaré que son candidat était 100% aligné avec lui. Une déclaration gênante pour Roberto Dias, professeur de droit constitutionnel à la Fondation Getúlio Vargas de São Paulo.
Du point de vue des institutions démocratiques brésiliennes, c'est une déclaration des plus désastreuses. C'est très mauvais pour la réputation d'impartialité du juge, mais aussi pour la réputation de la Cour.
Pourtant, selon lui, il est peu probable qu'une fois à la Cour suprême, Cássio Nunes s'aligne aux intérêts du président.
Je pourrais donner plusieurs exemples. Il y a celui emblématique du juge Joaquim Barbosa, qui avait été nommé par l'ancien président Lula et a ensuite été rapporteur du scandale de Mensalão et a été très dur dans ses votes contre les membres du Parti des travailleurs.
Selon les règles de la Cour suprême, le nouveau juge reprendrait les dossiers d'enquête de son prédécesseur et parmi elles, celle sur la tentative d'un ingérence du président auprès de la police fédérale. Luigi Bonizzato met en garde contre les soupçons qui pourraient planer si l'enquête revient à Cássio Nunes.
Je ne vois pas d'un bon œil le fait qu'un ministre qui vient d'être nommé s'occupe d'une enquête intimement liée à la figure du président qu'il a nommé. Je pense que d'un point de vue éthique et juridique, c'est quelque chose que la Cour suprême devra repenser.
Enfin, dernière révélation qui a tendu les débats ces derniers jours, Cássio Nunes a été accusé d'avoir gonflé son CV et plagié un texte pour sa thèse de doctorat. Lui nie totalement les accusations qui pourraient mettre en péril sa nomination, selon Roberto Dias.
C'est très grave d'un point de vue académique. C'est la preuve d'un manque d'intégrité. Et si c'est prouvé, alors un des critères des juges prévus dans la Constitution, celui de la réputation irréprochable, serait remis en cause.
Le président, lui, a défendu son candidat. Le 21 octobre, la nomination du successeur de Celso de Mello sera soumise au vote du Sénat qui devrait a priori la valider. Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
RFI à Paris, 15h22. Bonjour Sarah Tisser.
Bonjour.
Et vous nous emmenez au Bal. Le Bal, c'est le nom d'une salle d'exposition dans le 18e arrondissement de Paris qui accueille en ce moment les œuvres du Brésilien Miguel Rio Branco, 73 ans. C'est une figure de proue de la création contemporaine, à la fois peintre, cinéaste. Il est aussi connu pour son travail de photographe. Sarah, il y expose en ce moment une centaine de photos prises à ses débuts dans les années 70-80. Et ça se passe à New York, au Mexique. Et puis surtout dans le nord-est brésilien.
Oui, c'est en 68 que Miguel Rio Branco, fils d'aristocrate et diplomate brésilien, passé par l'Institute of Photography de New York, par découvrir et photographier la terre de ses origines. Dans le nord-est, il se frotte dans les années qui suivent aux chercheurs d'émeraude. Il immortalise aussi les habitants du Pelourinho à Salvador de Bahia. À l'époque, ce quartier autrefois prospère a été abandonné par les riches colons. Il est peuplé de déshérités, de prostituées notamment, très présente dans les clichés exposés au bal. C'est la première période, si on peut dire, de Miguel Rio Branco, photographe, que nous raconte Diane Dufour, la directrice du bal.
Il est assez fasciné par ce Salvador de Bahia qui, à côté des églises baroques étincelantes, couvertes d'or, recèle une nouvelle page chaotique, assez triste. Donc il va, pendant des mois, arpenter ces ruelles, se familiariser avec les coins obscurs, les façades des catis, les sols, des objets abandonnés, ou, comme il le dit, il recherche à la fois les cicatrices de l'histoire sur les murs, mais aussi les cicatrices morales, mentales et aussi sur les corps humains.
Et alors, étonnamment, pourrait-on dire, Sarah, ce sont des photos sans légende.
Oui, pour la plupart, parce que bien que membre associé de l'agence Magnum depuis 40 ans, Miguel Rio Branco n'est pas dans une démarche documentaire. En fait, c'est un peintre qui s'exprime en photo, bien plus qu'un photoreporter. D'ailleurs, il a commencé par la peinture à l'adolescence dans ses internats en Suisse. D'où, sans doute, cette volonté de faire ressortir la texture, la matière des objets photographiés, des cicatrices sur un dos nu, des façades abîmées, et du lait répandu sur le goudron, d'où aussi ce soin apporté à la composition, au cadrage, avec des personnages qui n'apparaissent généralement que par fragments.
La plupart des corps représentés, qu'ils soient masculins ou féminins, sont des bustes, des troncs, des jambes, des pieds, des coudes, des mains, ou des silhouettes floutées, ou une femme qui descend l'escalier, mais on la voit de dos, de manière très fugitive comme ça. Donc il y a une réalité sociale, humaine, très forte, décrite dans les images, mais elle est plutôt suggérée, elle est plutôt en creux.
Et puis, il y a des couleurs qui sautent aux yeux chez Miguel Rio Branco. Il est connu pour ça d'ailleurs, avec souvent dans ses photos une dominante rouge-orangée, par exemple, pour ce triptyque réalisé dans la chambre d'une prostituée en train de reboutonner son short. Alexis Fabry, co-commissaire de l'exposition.
En fait, c'est très rarement des travaux multicolores. C'est des travaux dans lesquels, généralement, il y a une couleur qui irradie vers le reste de l'image.
Comme dans ce triptyque là.
Dans ce triptyque, c'est l'intérieur d'une chambre d'une prostituée. Cette chambre, elle est tapissée d'affiches issues de magazines érotiques et il y a toujours aussi la présence de miroirs. Il aime qu'il y ait des écrans entre la réalité et ce qu'il nous montre.
Rouge-orangé ici, bleu-gris plus loin pour une série de garçons dansant la capoeira. La couleur attire le regard, mais quand on lui dit que c'est un grand coloriste, Miguel Rio Branco, lui, il corrige, il dit « Je ne suis pas un coloriste comme Matisse, ma vision est plus sombre à la manière de Goya ».
Merci beaucoup Sarah Tisser. Cette exposition est donc à voir au bal à Paris et c'est jusqu'au 6 décembre prochain.
Le journal de l'Outre-mer.
RFI à Pointe-à-Pitre, il est 9h25. Ce journal vous est présenté par Thierry Belmont. Bonjour.
Bonjour Adrien, bonjour à tous.
Alors avant d'aller avec vous en Martinique et en Guyane, la Guadeloupe, concernant sa gestion de l'épidémie de Covid-19, eh bien la Guadeloupe est un mauvais élève.
Oui, proportionnellement, le virus tue beaucoup plus en Guadeloupe que dans la plupart des pays voisins. C'est notamment le cas sur le plan de la mortalité. Guadeloupe la première, Josiane Champion.
Premier élément de comparaison, l'île sœur. La population de la Martinique est équivalente à celle de la Guadeloupe, tout comme le mode de vie ainsi que le niveau de ressources et d'infrastructures, et les protocoles sanitaires sont identiques. Pourtant, la Martinique ne déplore qu'une vingtaine de morts, il y en a 4 fois plus en Guadeloupe. Prenons la Dominique et Sainte-Lucie, nos voisines anglophones du Sud, quelques dizaines de cas chacune et aucun décès. Pas plus de cas et aucun mort non plus chez nos voisins du Nord, Anguille et Saint-Kitts. À Barbade, 300 000 habitants, le Covid a provoqué la mort de 7 personnes, 10 fois moins qu'en Guadeloupe. Enfin, dans les plus grandes îles, l'épidémie a fait 84 victimes à Trinidad, 3 fois plus peuplée, et provoqué seulement, entre guillemets, 126 décès en Jamaïque pour 3 millions d'habitants. Le gouvernement cubain comptabilise 125 morts du Covid pour une population de 11 millions d'habitants.
En Martinique, le scandale du chlordécone et ses conséquences, ce pesticide très toxique, a été utilisé massivement dans les bananeraies durant plus de 20 ans aux Antilles. Plusieurs études ont montré que l'exposition à ce pesticide provoquait des maladies. Aujourd'hui, les ouvriers agricoles parlent d'empoisonnement. Réunis en collectif, ils réclament un dédommagement et la gratuité des soins. Rosemarie Marilus est membre de ce collectif.
Ce sont des personnes qui continuent à souffrir dans leur chair. Ce sont des personnes qui ont travaillé depuis l'âge de 18 ans, qui sont partis à la retraite et qui ont une retraite de 200 euros. Ce sont des personnes qui ont travaillé même malades, parce que quand on ne travaillait pas, on n'avait pas de salaire. Et parmi toutes ces personnes, il y en a beaucoup qui n'ont pas été déclarées à la Sécurité sociale. Donc c'est pourquoi il y en a qui se retrouvent avec une retraite de 200 euros. Et en travailler au moins 40 ans.
Réaction au micro de Xavier Chevalier, Martinique la première. Direction la Guyane, où vient de s'achever une semaine riche en activités autour de la faune et de la flore. C'est le principe des journées de la nature, 5 jours de découverte et de sensibilisation qui se sont terminés ce dimanche. Reportage Guyane la première, Myriam Boicoul.
Je vais voir les oiseaux.
Lucille a 11 ans, elle est au CE1. Son dimanche matin, elle l'a passé en pleine nature avec sa maman et les animaux.
On a vu un singe, un paresseux et des oiseaux.
16% des oiseaux de Guyane sont menacés par l'activité humaine. Le GEPOG, le groupe d'études et de protection des oiseaux de Guyane, en fait le constat. Olivier Classens, ornithologue au GEPOG.
On voit beaucoup moins de choses aujourd'hui qu'autrefois. Donc en Guyane comme ailleurs, les espèces régressent, il y a beaucoup d'espèces en danger.
Découvrir la faune et la flore guyanaise, c'est aussi possible en ligne grâce à l'application gratuite Naturaliste. Plus de 700 000 données sur la nature en Guyane ont déjà été récoltées.
C'est tout pour l'actualité de nos Outre-mer. Bonne journée à tous.
Merci Thierry Belmont en direct sur Radio France Internationale. Ainsi se referme ce journal des Amériques, où que vous soyez sur la planète. Merci à vous de l'avoir écouté. Mise en onde signée Hélène Avril, rédaction en chef Sylvie Noël. À demain.